L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Aujourd'hui, on parle du succès de Sofrip, une friperie solidaire à Château-Gontier menée par APF Handicap 53. C'est aussi le début du cycle bande dessinée à l'Université populaire de Laval. De nouvelles conférences racontées par son animateur Maël Ranou à notre micro. Et on continue notre série avec l'agriculteur retraité Christophe Piquet qui nous parle agriculture bio et formation des nouveaux agriculteurs. Mais tout de suite, un point sur l'actualité ce midi. Une nouvelle visite ministérielle en Mayenne ce jeudi. Amélie de Montchalin, ministre chargée de la transformation et de la fonction publique, passe la journée à Laval. Un déplacement consacré à l'apprentissage et à l'emploi des jeunes, puisqu'elle a visité ce matin le centre de formation des apprentis à Changé. Elle se rendra ensuite au salon Laval Emploi sur un stand consacré à l'alternance. Et en fin de journée, échangera dans un établissement scolaire avec des jeunes engagés dans une mission de service civique. Dans son allocution hier, Emmanuel Macron a mis en avant la Mayenne. Le président de la République a déclaré « Le ralentissement des contacts sociaux, c'est ce qui nous a permis justement d'être efficaces, notamment en Mayenne. » Pour rappel, le département a été le premier à annoncer la distribution d'un masque par habitant offert par le conseil départemental à être visé par une campagne de dépistage massif. À ce jour, 90 000 tests ont déjà été réalisés, mais également dès mi-juillet par le port du masque obligatoire par arrêté préfectoral. Finalement, les footballeurs de Laval joueront bien ce dimanche. Le match du 5e tour de Coupe de France entre Angers et NDC et le stade lavallois aura bien lieu ce dimanche à Angers avec... malgré les cas de Covid-19 recensés au sein de l'effectif mayennais qui a poussé la Fédération française de football à reporter les deux derniers matchs de la formation lavalloise. À Château-Gontier, la friperie solidaire cherche des bénévoles. Ouverte en juin 2019, Sofrip a vite trouvé ses clients. Installée dans la galerie Clémenceau, avenue Razilly, c'est la quatrième friperie ouverte par APF Handicap, l'association des paralysés de France. Petite visite avec Anaïs Berthelot qui termine son service civique au sein d'APF Handicap.
Donc c'est séparé en quatre parties, on va dire. Il y a une partie homme, une partie grande taille, tout ce qui est enfant et les femmes. C'est le but qu'on voit vraiment que c'est plus présenté comme un magasin qu'une friperie. On a des vêtements de bonne qualité, on les garde. Ce sont des dons que les personnes nous font. Et on garde vraiment ce qui est en bon état. Nos prix vont que de 2 euros à 15 euros pour les vêtements d'été, voire plus. Mais sinon, généralement, on a une moyenne de 4 euros.
La service civique s'occupe du magasin, gère la caisse, mais surtout coordonne la dizaine de bénévoles qui assurent les permanences au magasin. Et parmi eux, Maryse Laffu qui explique leur mission.
La réception des vêtements, le tri des vêtements, la mise en place. On s'occupe aussi de la décoration du magasin, les vitrines, enfin, on essaie de faire un magasin agréable et puis on prend les gens en totalité, c'est-à-dire que les gens viennent aussi pour discuter, pas forcément pour acheter. Il y a des gens qui n'osent pas rentrer, donc une fois qu'ils sont rentrés, en fait, ils se sentent bien, donc ils se lâchent un peu, ils nous parlent, on connaît les gens et c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent, qui nous font confiance aussi pour on les guide un peu, parce qu'on a toute personne. On a des gens qui vont jusqu'à plus de 80 ans, qui n'osent pas trop mettre des choses comme ci, comme ça. Donc, on leur prouve que, bon, bah, il n'y a pas d'âge pour s'habiller, pour se faire plaisir. Ah oui, on a aussi des familles. On a des vêtements qui sont jusqu'à 3 ans à 0,50 €, que ce soit un pyjama ou un petit manteau. Donc, forcément, on a quand même des familles pour qui c'est très agréable d'avoir des vêtements en bon état, vu la durée de vie, entre guillemets, que les enfants vont les utiliser.
Des clients très divers, comme le confirme une autre bénévole, Elisabeth Brunet. Elisabeth Brunet, je vais lancer le son tout de suite, on l'écoute.
Je voulais préciser que ce ne sont pas que des gens qui ont des petits revenus. On voit énormément de gens comme vous, comme moi, qui viennent ici acheter. On crée un lien avec les gens. Puis quand on les rencontre dans la rue, je vous ai vu. C'est ça. Vous portez la robe que vous avez achetée. Il nous arrive aussi fréquemment ici des gens qui repartent avec les vêtements sur leur dos.
Succès non démenti pour Sofrip, vous l'avez compris. Mais que fait APF Handicap de son chiffre d'affaires ?
Ça paie les loyers déjà, ça paie les loyers, ça paie les charges. Et ça donne de l'argent, ben, ça permet aux, aux aidants de pouvoir se libérer. Ces gens en situation de handicap, ça, ça leur permet d'être sortis.
Et donc si vous aussi, vous souhaitez vous engager au sein de la friperie, n'hésitez pas à contacter APF Handicap à Laval, par téléphone donc au 02 43 59 03 70. La bande dessinée racontée par l'un de ses spécialistes, c'est ce soir à Laval, grâce au cycle de conférences autour de la BD, proposé par Maël Ranou au sein de l'Université Populaire. Il nous en parle dans 3 minutes après Gaël Faure.
T'as pas voulu vendre la terre, t'as pas voulu souiller son eau. Toi, pas question de faire affaire avec les requins, les marteaux. T'as pas voulu courir le monde, toi tu le tiens entre tes mains. T'as pas eu l'humeur vagabonde au diable rêve américain. Vois comme le colibri il est beau. Tu vois cet oiseau comme il brille. T'as pas voulu faire et défaire. Parler de trop, marcher sur l'eau. Tout juste pris le nécessaire. Vois comme le colibri, il est beau. Tu t'es voulu brave et honnête. Du genre humain, droit dans tes bottes. Je t'ai vu avocat ou prêtre. Servir la terre pour les autres. Vois comme le colibri, il est beau. Cet oiseau comme une brille. Pas comme le colibri, il est beau. Tu le vois, cet oiseau comme une
sur l'autre radio et vous écoutez l'Agité du local. L'Université populaire de Laval organise plusieurs cycles de conférences tout au long de l'année, ouverts à tous. Celui autour de la sociologie présenté par notre chroniqueuse Soizic est déjà complet, mais il reste de la place pour la philosophie, l'histoire de l'art et une nouveauté cette année, la bande dessinée. La première conférence est programmée ce soir à 18h30 à l'auditorium de la salle polyvalente de Laval, l'occasion d'en discuter avec son animateur Maël Ranou. Le cycle bande dessinée de l'Université populaire à Laval commence ce jeudi et il est proposé par Maël Ranou, bibliothécaire donc ici à Laval, mais surtout auteur et critique de bande dessinée. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, on va un petit peu vous présenter, c'est-à-dire que vous faites tout un cycle autour de la bande dessinée. Il y a une raison, puisque c'est vraiment un de vos sujets d'études et un de vos sujets de prédilection qui vous tient à cœur.
Tout à fait, c'est un sujet de passion depuis très très longtemps, puisque Je publie des fanzines, des micro-éditions de bande dessinée depuis que je suis au lycée Rousseau à Laval d'ailleurs. Et ensuite, j'ai continué mes études et ma vie personnelle, mais j'ai toujours écrit sur la bande dessinée, publié des bandes dessinées comme auteur, mais aussi beaucoup vraiment comme critique. J'avais participé au lancement de la revue Les Cahiers de la bande dessinée, par exemple. J'ai publié un certain nombre d'articles, d'ouvrages, notamment un ouvrage sur la bande dessinée en bibliothèque pour lier les deux passions. Et voilà, je fais régulièrement des conférences et des cours sur la bande dessinée. Et quand on m'a proposé de rejoindre l'Université Populaire pour proposer un nouveau cycle, pour changer un peu la programmation, bien, j'acceptais avec enthousiasme. Ça faisait très plaisir de pouvoir le faire à Laval.
Puisque l'Université Populaire, on le rappelle, c'est donc plusieurs cycles de conférences sur différents thèmes. Alors il y a entre autres, mais c'est déjà peut-être plus installé que ce nouveau cycle sur la BD, de la philosophie, de l'histoire de l'art, de la littérature, et un petit nouveau cette année, la réalité virtuelle, sans oublier la sociologie. Et donc cette année, ce nouveau cycle que vous préparez autour de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est vrai que c'est pas forcément l'un des premiers thèmes auxquels on pense en termes de recherche ou historique ou autre. C'est peu évoqué finalement.
Il y a eu énormément d'évolutions. Quand on est dans le milieu, on voit énormément de choses, un foisonnement. Mais c'est vrai que quand on sort un peu du milieu, on se rend compte que c'est pas forcément si bien perçu que ça. Enfin, pas forcément bien perçu en termes de positivité, mais on se rend pas forcément bien compte de tout le travail de recherche qui existe. Il y a des premières thèses sur la bande dessinée qui ont été soutenues il y a des années et des années maintenant. Il y a eu des premiers clubs de chercheurs sur la bande dessinée dans les années 50. C'était le sujet de mon mémoire, d'ailleurs. Et il y a beaucoup de choses voilà, qui se font. Il y a des associations de chercheurs, mais elle-même, l'association de chercheurs, n'a que 4-5 ans. Voilà. Bon, il y a des prix, il y a des moments installés. Angoulême est un moment connu, par exemple, même si cette année, bon, comme tout, ça va être un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément voilà, à le poser en termes d'histoire, en tout cas dans le grand public. Mais ça m'a fait très plaisir sans qu'on le propose. Et l'idée était vraiment de faire des leçons, enfin des cours, je ne sais pas comment les appeler, des conférences qui soient accessibles. C'est vraiment pour les néophytes. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui s'y connaît déjà un peu n'apprendra rien ou s'ennuiera, mais l'idée, c'est qu'on puisse vraiment aborder ces cycles en fonction des thèmes de chaque conférence qui nous intéresse, de pouvoir les aborder voilà, et découvrir, presque même si on n'y connaît rien, pouvoir ressortir avec quelque chose en tête, avoir compris. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose d'incompréhensible, loin de là. C'est vraiment pour tous ceux qui peuvent aller à l'Université Populaire s'intéresser d'habitude à la sociologie, à la philosophie ou à l'économie politique qu'il y avait avant, ben voilà, pourquoi pas s'inscrire à la bande dessinée cette année.
Et alors justement, comment après vous avez vous-même construit votre programme, puisqu'on vous dit un cycle sur la bande dessinée, j'imagine que plein d'idées vous sont venues à l'esprit. Comment est-ce que là après on structure les choses et on se dit, voilà, on va faire 6 séances sur ce sujet?
Alors déjà, bon, le nombre était fixé à l'avance, hein, mais il y avait une nouveauté cette année qui vaut pour tous les cycles d'ailleurs. Donc je vais rappeler, je pense que c'est toujours une bonne idée. Avant, apparemment, on pouvait s'inscrire, voilà, on s'abonnait à un cours pour 6 séances ou à une séance. Là, vous pouvez vous inscrire à 6 séances, mais de cours différents. Voilà, vous prenez une carte d'un nombre de séances, par exemple, et allez faire 2 cours de BD, 2 de sociologie, 2, voilà, c'est parfaitement possible. Donc la commande était très claire, fallait bien qu'il y ait une évolution, enfin, fallait pas répéter la même chose à chaque fois, hein, j'allais pas répéter les bases à chaque séance, mais qu'on puisse prendre des bouts sans avoir tout vu. Donc il y a à la fois une évolution, mais malgré tout, il fallait la construire avec des thèmes pour pouvoir avoir des entrées dans lesquelles tout le monde puisse aller. Et donc, ça s'est fait assez simplement, finalement. Il fallait réfléchir un peu, mais comme on a élaboré le programme pendant le confinement, on avait le temps de réfléchir. Et donc, il y a une première séance, celle qui a lieu jeudi, qui est vraiment la séance la plus historique, chronologique, hein, qui s'appelle « Naissance de la bande dessinée », naissance avec un S, qui vient vraiment sur toutes les naissances de la bande dessinée, différentes théories de naissance de la bande dessinée. Qu'est-ce que la bande dessinée, la définition? En fait, les définitions, hein, je spoil, mais je vais vous dire tout de suite, je ne donnerai pas une définition, ça serait plus simple. Et donc, il s'agit vraiment de voir dans différents pays, hein, au niveau international, comment la bande dessinée est née et a évolué, car c'est quand même un art relativement jeune. Et en fait, les définitions de sa naissance ne collent plus vraiment aujourd'hui, parce qu'elle évolue beaucoup avec son, pour faire un peu une introduction, avec son support de publication, avec la technique. Et donc là, on a plein de questions à se poser. Et justement, le dernier cours, lui, porte sur les frontières de la bande dessinée, les marges de la bande dessinée, entre le livre illustré, le livre numérique, le dessin animé, les BD en 3D sur les murs, enfin voilà. C'est un peu une conclusion, parce que ça correspond à ce fil narratif, mais ça pourrait très bien être un cours à part. Et donc j'ai un peu essayé de construire comme ça, sur des blocs, qui, un peu à partir de cette première séance, même si on peut venir si on ne l'a pas vu, mais c'est sûr qu'il y a des bases qui vont être données là, explore des petits bouts et permettre d'avancer. Il y aura un cours sur notamment la presse et la bande dessinée, par exemple.
puisque initialement, en tout cas, on retrouvait beaucoup de bandes dessinées justement dans les magazines de presse. C'est un peu né comme ça.
Tout à fait, même dans les magazines, pas de presse du tout, dans les journaux, dans les journaux grand public, on allait avoir la page de bandes illustrées, ou aux États-Unis les Sunday Pages, les pages de strip. Et je vais donner l'exemple de ce cours-là, parce qu'on va en parler pendant le cours sur la naissance de la bande dessinée, différentes naissances et l'impact de la technique. Mais justement, pour étudier l'évolution de toute la presse, de la presse grand public, au magazine de bande dessinée, qui a un vrai âge d'or dans les années 50 à 90, au règne de l'album aujourd'hui, tout ça, ça va être étudié dans un cours spécifique. Quoi. Plus finalement un cours d'histoire du livre et du support médiatique, proche de mon métier bibliothécaire, là, on y retrouve, que de la bande dessinée, alors que d'autres vont être portés sur des sujets comme un cours sur la bande dessinée du réel, la bande dessinée documentaire, par exemple, qui est un sujet qui explose ces dernières années. Voilà, j'ai essayé de compléter vraiment des items qui se répondent et qui abordent pas toujours sous le même angle.
Oui, c'est ça. Il y a cette partie historique, comme vous le disiez, mais pas seulement. Il y aura peut-être une partie plus sur le contenu, vraiment, enfin les sujets abordés en BD ou même plus la technique. Enfin, je sais pas comment est-ce que vous comptez.
Si, il y a un peu de tout ça. Alors la technique, j'essaye de la glisser dans tous, pour le coup, parce que et beaucoup dans la définition, parce que c'est vrai qu'il y a des il y a vraiment des techniques qui évoluent et qui sont très très variables. Mais j'essaye d'en glisser un peu partout pour pas faire un cours technique strictement qui est je pense, n'est pas le public, on va dire, a priori. Mais c'est important d'avoir la technique en tête, évidemment. Mais par contre, oui, je parlais de l'entrée BD du réel, BD documentaire, BD reportage. Ça, c'est vraiment un thème, même si c'est un thème extrêmement vaste, hein, parce que finalement, faire des reportages, vous le savez, ça peut parler de tout et de n'importe quoi. Voilà, mais c'est une entrée par le sujet. Il y en a un autre thème qui va être, alors que la presse est plus une entrée sur l'histoire du livre. Mais en fait, ça se croise en réalité. On ne va jamais faire que quelque chose d'histoire du livre ou que du thématique. Il y a notamment sur cette deuxième leçon, qui est sur les invisibles ou les invisibilisés de la bande dessinée, qui va parler de la place des femmes, mais aussi des pays, donc deux choses bien différentes. Hein. Une femme et un pays, ce n'est pas exactement la même chose. Mais de tout ce qu'on ignorait dans l'histoire de la bande dessinée, justement, c'est un peu un complément au premier cours sur la naissance. Souvent, on parle de trois grands pays, États-Unis, France, France, Belgique, et Japon, et en fait, il y a de la BD en Argentine, il y a de la BD un peu partout, en réalité. Dès les années 70, il y a un premier livre universitaire sur la BD au Vietnam, voilà. C'est d'ailleurs le seul qu'il n'y a jamais eu. Hein. Et à côté de ça, on parle beaucoup aujourd'hui de l'arrivée de femmes dans le monde de la bande dessinée, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, mais il y avait des femmes qui faisaient de la bande dessinée dès la fin du 19e siècle. Hein. Enfin, et comme souvent, en fait, ce qu'on voit dans tous les secteurs, on redécouvre un peu. Donc voilà, ce second cours est plus une volonté d'aller mettre l'éclairage sur des secteurs de la population ou géographiques qui sont moins connus. Par exemple, vous voyez, j'essaie de construire comme ça, avec vraiment des items à chaque fois. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas de femmes dans d'autres sessions, qu'on ne parlera pas de la BD argentine dans d'autres sessions, par exemple.
Mais qui, en tout cas, a une grande direction à chaque séance, à chaque conférence. C'est vrai que sur un thème comme ça, forcément, on a envie de les voir, ces planches de BD. Comment est-ce que ce sera projeté? Est-ce qu'il y aura des choses qui seront distribuées? Enfin, comment est-ce que les participants pourront en profiter?
Ça, c'est là. Il y a une double problématique. Alors, il y aura des choses projetées. Alors, ça devait être au Centre Jean Monnet. Ça se déplace à l'auditorium de la salle polyvalente. Donc, j'ignore complètement quelle sera la forme. Je ne suis pas inquiet. Il y aura des projections. Évidemment, quand on parle de bande dessinée, il faut forcément des images. Hein. Et à vrai dire, ce qui me prend le plus de temps, c'est de faire ces PowerPoint là. Enfin, c'est pas un PowerPoint, c'est un logiciel libre. Mais bon, bref, c'est de faire ces fichiers d'images parce que c'est presque le plus long, puisque le texte là est assez bien prêt. Mais je vais pas lire pendant une heure et demie un texte sans images. Et les gens, ils ont besoin de choses sur lesquelles s'accrocher. C'est de manière générale, mais alors sur la bande dessinée, c'est encore plus. C'est le cœur du sujet. Malheureusement, on ne pourra rien distribuer pour des raisons sanitaires. Normalement, je n'aurais pas distribué des tas d'images de toute façon, parce que y a un coût, j'imagine, mais au moins ne serait-ce que des références bibliographiques ou quelques liens à aller voir. Bon, j'ai prévu, ça ne sera pas avant, malheureusement, parce que c'est le temps, tout ça, mais juste après d'envoyer le fichier images et différents liens pour approfondir. Ça, je compte le faire à chaque fois, donner des références. Ça, c'est normal. Après, il y aura des images projetées, il y aura des références données. Malheureusement, il n'y aura pas, mais je crains que pas avant la fin des 6 conférences, je ne pense pas qu'on puisse redistribuer des documents.
Mais en tout cas, on pourra quand même voir et profiter que ça parle, tout ce dont vous parlerez lors de
complètement, et j'essaierai de donner le fichier numérique pour que les gens puissent, chez eux aussi, s'ils ont envie de dire, tiens, cette page-là était jolie, qu'est-ce que c'était, ou tiens, ça m'intéressait, le sujet, aller recreuser d'eux-mêmes, quoi.
C'est aussi l'intérêt, j'imagine, de ces conférences, c'est de donner envie, alors peut-être pas sur tous les sujets, mais en tout cas certains, ceux qui ont plus accroché, d'aller creuser un peu plus, voire de lire d'autres.
Complètement, c'est l'idée. Comme dire, ça reste à des néophytes. Des fois, beaucoup de gens, et là, c'est le bibliothécaire qui va vous parler. Hein. Moi, je m'occupe pas du secteur bande dessinée, d'ailleurs, assez curieusement, mais ça m'arrive d'y être quand même. Et beaucoup de gens ne sont pas forcément fermés, mais disent « moi, j'ai jamais lu ça, je ne sais pas par où commencer, il y a tellement de choses ». C'est pas pour moi. Je sais pas comment en lire aussi, hein, vraiment. On l'imagine pas forcément quand on est pas lecteur de quand on est lecteur de bande dessinée, mais c'est pas si évident de lire des images avec du texte, de savoir est-ce qu'il faut lire l'image, le texte séparément. Bon, en fait, il faut tout lire en même temps. Mais voilà, c'est et des gens viennent me voir comme ça, avec curiosité, vraiment envie, mais sans savoir par où commencer. Donc c'est un peu l'idée aussi. J'ai bon espoir que si des gens s'inscrivent pour entendre une heure et demie d'histoire de la bande dessinée, c'est qu'ils sont derrière quand même une curiosité pour en lire. J'ose espérer, si on est pauvre. Après, ils font bien ce qu'ils veulent, hein, mais et justement, bon là, le bibliothécaire que je suis est un médiateur aussi, hein, donc mon rôle, moi, c'est de donner envie, mais pas juste donner envie de tout n'importe, de trouver les choses qui vont aussi avec les gens. Donc il y aura un temps de questions, il y aura des gens qui pourront toujours me réinterroger, et voilà, l'idée est d'amener vraiment la bande dessinée aussi à ses lecteurs.
Et donc, ça commencera, on l'a dit, ce jeudi avec les naissances, avec un S de la bande dessinée. Et après, ce sera un jeudi par mois de 18h30 à 20h30, c'est ça ?
C'est ça, c'est bien ça. Alors, je ne sais pas si ce sera toujours à l'auditorium, mais là, c'est à l'auditorium de la salle polyvalente, sans doute pour quelques temps, je le crains.
En tout cas, au moins pour ce jeudi, ça c'est sûr. Très bien. Donc, c'est noté en tout cas. Merci beaucoup, Maëlle Ranou, d'avoir été avec nous pour en parler donc, de ce nouveau cycle de conférences de l'Université populaire de Laval autour de la bande dessinée.
Merci à vous pour votre invitation et à jeudi à tous.
Et donc, pour y participer, il est préférable tout de même de s'inscrire au 02 53 74 12 50 ou par mail à université.populaire@laval.fr. Mais vous pouvez aussi vous rendre directement ce soir à 18h30 à la salle polyvalente de Laval en espérant qu'il reste des places.
C'était Circa Waves avec Old Friends. Vous êtes bien sur l'autre radio dans l'émission L'Agité du local. Et à présent, on retourne dans les champs avec Christophe Piquet, ancien agriculteur conventionnel. Il s'est converti au bio il y a une dizaine d'années. Et s'ils ne sont pas si nombreux pour l'instant à l'avoir rejoint, c'est aussi une question de formation, selon lui.
Pour passer un agriculteur biologique, la première chose qu'il faut, à mon avis, c'est être prêt dans sa tête. Maintenant, c'est vrai que si on a fait des élevages en béton pour des bâtiments industriels, c'est extrêmement compliqué, ça je suis d'accord. Mais maintenant, réfléchissons bien sur le fait d'être agriculteur et d'être agriculteur à part entière, c'est-à-dire de décider soi-même de ce qu'on va faire sur son exploitation. Si on s'est laissé conduire par tous ceux qui nous entourent, c'est-à-dire sans doute les centres de gestion, les banques et les coopératives, et enfin tout ce qui peut entourer l'agriculture, et qu'on les a suivis pendant un petit moment, on est pris dans un engrenage où on ne peut plus sortir. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, moi, je voudrais parler surtout aux jeunes, parce qu'il faut d'abord commencer par changer la formation. Je vous assure que j'interviens avec mon ami qui m'a aidé à planter les arbres, Cyril Barbet, dans les lycées agricoles, mais c'est un véritable cauchemar. C'est-à-dire que tout ce qu'on essaie de dire, c'est exactement le contraire de la formation qu'ils ont reçue. La formation aujourd'hui, à quelque chose près, elle est la même que celle que j'ai reçue il y a 40 ans. C'est, à mon avis, le seul métier où on n'a pas évolué. L'agriculture biologique, c'est vraiment, vraiment petite parenthèse de la formation. C'est juste pour dire qu'on en a parlé, mais on n'a pas formé. Moi, je verrais exactement le contraire. Je voudrais que la formation soit sur l'agriculture biologique dans tous ses états, dans toute sa diversité. J'ai eu des jeunes qui m'interpellaient, qui étaient complètement en désaccord avec tout ce que je disais. Ils me disaient, mais de toute façon, nous aussi, on essaie d'être autonomes et tout ça. On n'a pas la place pour un arbre, on n'a pas la place. Et ils m'expliquaient un petit peu toutes ces contraintes. Mais je lui dis, écoute, t'as 20 ans, tu n'es même pas installé et tu es en train de me dire que tu vas t'en aller vers un cauchemar, vers quelque chose qui n'est même pas envisageable. Tu ne l'as même pas fait. Et tu vas y aller quand même. C'est facile aujourd'hui de gagner sa vie quand on n'a pas peur d'utiliser tout ce que nos ancêtres nous ont préparé, servi sur un plateau, c'est-à-dire d'abord le climat, la biodiversité, l'humus dans les sols, parce que l'humus c'est la réserve des sols, c'est le réservoir des sols, c'est ce qui nous fait vivre. Donc on a utilisé tout ça, mais ça ne nous a pas suffi. On va en plus prendre et piller tout ce qu'on aurait dû, c'est-à-dire laisser aux générations futures, c'est-à-dire ben, les arbres, l'humus, les sols propres, neufs, avec toute la biodiversité et la vie microbienne qui l'accompagne. Donc on est en train d'utiliser aussi tout ça. Donc quand on réunit tous nos ancêtres et qu'on réunit aussi tout ce qu'on aurait dû laisser aux générations futures, c'est vrai que pendant une période de 20, 30, 40 ans, des fois 50 ans, suivant l'état des sols, eh bien oui, on peut vivre une vie plutôt facile, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'atteler une tonne à traiter, mettre du produit dedans, puis aller traiter, plutôt que de respecter des rotations avec des prairies et des animaux dehors et tout ça. Oui, c'est un changement total de métier, mais mon cri d'alarme, c'est ramener énormément de monde à la terre.
Passons à l'agenda avec le festival Monte dans le bus, qui propose donc un nouveau spectacle. Ce sera demain, il s'intitule La Tortue, par la compagnie Ouvrez l'œil et l'oreille. Ce sera à 20h30 à Olivet. Un concert illustré avec deux artistes, Hélène Coudray qui peint et qui dessine, pendant que Xavier Quentin joue du violon. Alors La Tortue, puisque en fait tout le spectacle s'articule autour d'une recherche obstinée de la tortue. À découvrir donc demain soir, un spectacle jeune public. Autre grand spectacle prévu ce samedi à l'espace culturel Colmont de Goron à 15h et à 20h, où vous pourrez retrouver sur scène 12 gagnants de l'émission de France 2 N'oubliez pas les paroles, réunis donc à cet espace culturel Colmont de Goron. Ils seront sur scène au profit de l'association contre la souffrance des enfants douloureux et ils seront accompagnés par la classe orchestre du collège Francis Lalard. Un spectacle donc avec des chansons, vous l'aurez compris, des medleys et des scénettes humoristiques. Autre spectacle du festival J2K donc, qui se poursuit avec notamment samedi à 20h30 Dos au mur, proposé par la compagnie Yeah Yellow. Attention, il y aura du niveau hein, sur scène des champions de breakdance internationaux. Camille Régnaud et Julien Saint-Maximin qui seront donc au Théâtre de Laval, un spectacle donc à ne pas manquer. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre à 19h La Grande Séduction, où vous entendrez la discographie amoureuse du violoniste et altiste révélation de l'année aux Victoires du Jazz 2017 Théo Secaldi. Et puis à 21h All Blues, donc comme son nom l'indique, les portes vont se fermer, le train va partir pour 2 heures de blues. Et puis quant à moi, vous l'avez compris, donc on se donne rendez-vous demain à 12h15 pour une nouvelle édition de l'Agité du local. Très bonne journée à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'Agité du local.